Au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Un soldat français de l'opération anti-djihadiste Barkhane est mort hier de manière accidentelle sur la base de Tombouctou au Mali, a annoncé mercredi l'état-major, le maréchal des logis Adrien Quellin, un mécanicien de 29 ans appartenant au 4e régiment de chasseurs de Gap, effectué une opération de maintenance sur un camion. Il a été grièvement blessé par la bascule de la cabine de ce camion alors qu'il travaillait sur le moteur du véhicule, selon un communiqué. En Algérie, Saïd Bouteflika, frère cadet et influent conseiller du défunt ex-président Abdelaziz Bouteflika, a été condamné hier soir à 2 ans de prison ferme par un tribunal d'Alger pour entrave au bon déroulement de la justice, a indiqué l'agence officielle APS. Le parquet avait requis 7 ans ferme contre M. Bouteflika, qui était poursuivi avec d'autres anciens responsables pour incitation à falsification de documents officiels, abus de fonction, entrave à la justice, incitation à la partialité de la justice et outrage à magistrat. Au moins 1000 femmes et enfants parmi des milliers de migrants détenus par les autorités libyennes dans des centres de détention surpeuplés à Tripoli sont en danger immédiat, a alerté hier l'UNICEF. L'Afrique du Sud, qui milite pour un accès équitable aux vaccins contre le Covid, s'est lancée dans la conception d'un premier vaccin africain à ARN messager pour mettre fin à la dépendance du continent. À ce jour, à peine 5% des Africains éligibles sont entièrement vaccinés. Des pays pauvres à la traîne dans la vaccination contre le Covid et des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement partout dans le monde freinent la croissance mondiale, a prévenu ce mardi le Fonds monétaire international. Les compagnies aériennes, américaines et Southwest ont indiqué hier qu'elles allaient a priori bien respecter la loi fédérale décidée par le président américain Joe Biden, imposant le vaccin à leurs employés et défier ainsi une nouvelle législation texane s'opposant à l'obligation du vaccin. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a rappelé hier que la loi fédérale prévaut sur la loi des États fédérés. Après avoir déjà annoncé la fin prochaine des restrictions pour les voyageurs vaccinés contre le Covid-19 arrivant par les airs, les États-Unis ouvriront début novembre leurs frontières terrestres avec le Mexique et le Canada, également aux visiteurs vaccinés, a déclaré dans la nuit de mardi à mercredi un haut responsable de la Maison-Blanche. Les talibans afghans ont rencontré pour la première fois une délégation conjointe des États-Unis et de l'Union européenne ce mardi à Doha, le jour même où les dirigeants du G20 se sont engagés à travailler ensemble pour éviter une catastrophe humanitaire en Afghanistan. Près de 300 rebelles ont été tués en 48 heures dans la région stratégique de Marib au Yémen, mais ces insurgés parviennent à progresser malgré l'intensification des frappes aériennes d'une coalition militaire soutenant les forces gouvernementales au sol. En net recul à l'issue des élections législatives en Irak, d'influents partis chiites pro-iraniens ont crié à la fraude hier, affirmant qu'ils prendraient les mesures nécessaires pour annuler ce qu'ils appellent cette escroquerie. Le secrétaire d'État Anthony Blinken va recevoir ensemble ce mercredi les ministres israéliens et émiratis des Affaires étrangères et réaffirmer ainsi le soutien des États-Unis au processus de reconnaissance d'Israël par les pays arabes, processus entamé par l'ex-président Donald Trump. L'administration Biden a promis de promouvoir activement ces accords dits d'Abraham auprès d'autres États du Moyen-Orient. Le Congrès américain a accepté hier de relever temporairement le plafond de la dette des États-Unis jusqu'à la fin de l'année, offrant un répit à la première économie mondiale avant une nouvelle bataille politique qui s'annonce féroce pour éviter un défaut de paiement. La suite de nos informations. L'état-major français a indiqué hier que la force Barkhane a débuté la phase finale du transfert de la base de Kidal dans le nord du Mali vers la force des Nations Unies et de l'armée malienne. Le point avec Rosine Mounezero.
Le dernier convoi logistique est parti pour Gao hier matin. Un détachement de Barkhane restera sur place pour les dernières formalités administratives et logistiques, a indiqué le porte-parole de l'état-major, le colonel Pascal Yanni. Paris a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire au Sahel en quittant les bases les plus au nord du Mali, notamment Kidal, Tombouctou et Tessali, et en prévoyant de réduire ses effectifs dans la région d'ici à 2023 à 2503 000 hommes contre plus de 5 000 aujourd'hui. Le détachement de Barkhane qui demeure à Kidal, dont les effectifs n'ont pas été révélés pour des raisons de sécurité, sera amené à faire de la réassurance auprès des partenaires de la France, a précisé le porte-parole en insistant sur un processus contrôlé, maîtrisé et sécurisé. Les relations entre Paris et Bamako se sont dégradées le 25 septembre lorsque le premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a accusé la France, engagée militairement au Mali, d'abandon en plein vol. Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, a dit hier que les élections présidentielles et législatives, qui étaient censées se tenir en février prochain, pourraient ne pas avoir lieu à la date prévue.
Libération du journaliste congolais Sostène Kambidi. Il a été arrêté le 20 septembre dans le cadre d'une enquête sur le meurtre de deux experts de l'ONU en 2017. Le point avec Abdourahman Dia.
Le parquet militaire de Kananga, chef-lieu du Kasaï central, a signé une ordonnance de mise en liberté provisoire en sa faveur à l'issue d'une audience publique. « Je suis soulagé de retrouver ma famille et bientôt mes collègues de travail », a déclaré Sostène Kambidi. Le journaliste a pu rentrer chez lui, mais il ne doit pas quitter Kananga et en cas de voyage essentiel, il doit solliciter une autorisation du ministère public. Depuis son arrestation, la justice militaire cherchait notamment à savoir comment Sostène Kambidi est entré en possession d'une vidéo de l'exécution des experts. Il avait indiqué en audience publique qu'il la tenait d'un avocat qui lui-même disait l'avoir obtenue d'autres personnes. Sostène Kambidi était donc en bout de chaîne, a souligné son avocat. Maître Dominique Kambala, qui avait déposé plusieurs demandes de remise en liberté ces dernières semaines, en s'indignant du fait que le journaliste, entendu comme simple témoin, puisse être détenu. Les autres personnes interrogées au procès à propos de cette vidéo, dont le vidéaste Israël Toumba, restent en revanche détenus.
Le président de la Somalie demande au Kenya de respecter le droit international après la décision de la Cour internationale de justice de La Haye d'accorder à Mogadiscio la majeure partie d'une zone maritime disputée de l'océan Indien, potentiellement riche en gaz et en pétrole, Jacques Aristide.
En respectant les lois et les conventions internationales, le gouvernement fédéral de Somalie déclare avec clarté qu'il se conforme à la décision de la Cour, a déclaré Mohamed Abdoulaye Mohamed lors d'une intervention télévisée hier. Le Kenya voisin, ajoute le président somalien, doit respecter le droit international et abandonner son ambition. Hier, la Cour internationale de La Haye a statué qu'il n'y avait pas de frontières maritimes convenues. La plus haute juridiction de l'ONU a également tracé une nouvelle frontière. Proche de celle revendiquée par la Somalie, le Kenya conserve une partie du triangle d'eau contesté entre les deux pays qui s'étend sur plus de 100 000 km². La Cour a ainsi mis fin à la procédure initiée en 2014 par Mogadiscio et qui envenime régulièrement les relations déjà tumultueuses entre les deux pays voisins qui revendiquent tous deux la souveraineté sur cette vaste zone. Le Kenya a accusé la juridiction de partialité et fait savoir qu'il ne reconnaissait pas la compétence de la Cour, dont les décisions sont sans appel, mais elles ne disposent pas de moyens contraignants pour les faire appliquer.
Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, vient de rejeter totalement la décision de la Cour internationale de justice, soulignant que le gouvernement kényan ne reconnaît pas ses conclusions. Comme l'a rappelé Jacques Aristide, le Kenya avait récemment déclaré ne plus reconnaître l'autorité de la Cour, l'accusant de partialité. La Minute Éco, John Linden.
MTN Group, société sud-africaine de télécommunications mobiles, a annoncé qu'elle va investir
plus de 120 millions de dollars au Sud-Soudan au cours des trois prochaines années. Selon Financial Afrique, cette information a été révélée à la suite d'un entretien entre le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et une délégation des MTN qui s'est engagée à renforcer et à étendre ses services aux zones rurales. Le fardeau de la dette des pays à faible revenu du monde a augmenté de 12% pour atteindre un record de 860 milliards de dollars en 2020. C'est ce qu'indique un nouveau rapport de la Banque mondiale. À l'origine de cette hausse, le COVID-19 qui, selon l'institution, a poussé les gouvernements à répondre à la pandémie par des plans de relance budgétaire, monétaire et financier massifs pour, entre autres, atténuer l'impact du COVID-19 sur les pauvres. Ici aux États-Unis, l'entreprise familiale de l'ancien président des États-Unis Donald Trump est en négociation avec le gestionnaire d'actifs américain CGI Merchant Group pour céder le bail de son hôtel de luxe Trump International Hotel à Washington. C'est ce qu'a affirmé mardi le Wall Street Journal. Le montant de la transaction pourrait s'élever à plus de 370 millions de dollars, précise le quotidien new-yorkais qui cite des sources proches du dossier.
Merci John. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le Sénégal et le Maroc sont les premiers pays africains qualifiés pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Zone Afrique, hier, lors de la quatrième journée des éliminatoires, les Lions de la Teranga se sont imposés 3-1 devant la Namibie, leur quatrième victoire consécutive dans ces matchs de qualification. Ils totalisent donc 12 points et sont sûrs de finir premier de leur groupe H devant le Togo deuxième avec 4 points. Mission accomplie, mais attention, il y a toujours des choses à revoir, selon Babacar Ndao Faye, rédacteur en chef du groupe Immédiat que nous avons joint à Dakar.
Sur ce point, en tout cas comptable, on ne va pas faire la fine bouche. Oui, le plus dur a été fait. Et je pense que le Sénégal a tenu son rang. Maintenant, il y a encore des réglages à faire hein, sur le plan du jeu, sur le plan de l'organisation défensive. Il y a quand même eu beaucoup d'occasions qui ont été concédées face à des équipes qui sont supposées vraiment très faibles par rapport au standing du Sénégal.
Babacar Ndao Faye, rédacteur en chef du groupe Immédiat, joint à Dakar. Les Lions de l'Atlas joueront aussi les barrages. Le Maroc a dominé la Guinée 4-1 pour arracher sa quatrième victoire de suite en autant de matchs et est certain de terminer premier du groupe I devant la Guinée-Bissau, deuxième avec 4 points. L'Afrique du Sud s'est imposée devant l'Éthiopie et reprend donc la tête du groupe D devant le Ghana, vainqueur 1-0 du Zimbabwe. Le Niger est tombé à domicile devant l'Algérie 4-0. Le Togo a battu le Congo 2-1. Les derniers matchs de ces qualifications du Mondial à Qatar 2022 auront lieu le mois prochain. En Égypte, environ 2000 supporters, 1000 pour chaque club, pourront assister au match du championnat national de football qui débute fin octobre. Les stades étaient restés fermés depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le 25 octobre, le colosse Al Ahly affrontera l'Ismaili Sporting Club, tandis que le Zamalek FC, tenant du titre, s'opposera à ENPPI Sporting Club. Le derby du Caire, Al Ahly contre Zamalek, n'aura lui lieu qu'à la troisième phase du championnat. 18 clubs se disputeront le titre de champion d'Égypte durant cette saison. Basketball, le meneur des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, ne sera pas autorisé à jouer ni même à s'entraîner tant qu'il ne sera pas vacciné contre le Covid. C'est ce qu'a annoncé la direction de la franchise de NBA. Pour lutter contre la pandémie de Covid-19, New York a mis en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité sanitaire qui n'autorisent pas les adultes non vaccinés à prendre part aux entraînements ni aux matchs. À une semaine du début de la saison NBA qui s'ouvre par un choc entre les Milwaukee Bucks, champions en titre, et les Nets, le meneur de 29 ans ne pourrait donc pas disputer les matchs à domicile, soit 41 rencontres de saison régulière auxquelles il faudrait ajouter celles d'éventuels play-offs. Nous ne permettrons à aucun membre de notre équipe de n'être disponible que partiellement, a déclaré Sean Marks. La décision du directeur général des Nets intervient alors que la mairie de New York avait décidé vendredi d'autoriser Irving à s'entraîner dans les installations de la franchise.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La prévention routière est un défi dans beaucoup de pays, notamment dans les États africains. Au Sénégal, les chiffres officiels font état de plus de 600 morts par an dans les accidents de la route. Qu'est-ce qui cause les accidents routiers? Comment y remédier? Des Sénégalais témoins d'accidents se prononcent au micro de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Sur l'autoroute, dans les rues ensablées, sur les passages à niveau, les Sénégalais sont souvent témoins d'accidents aussi violents que banals. Fatou Camara habite Guédiouaï et c'est à quelques mètres de son domicile qu'elle a assisté impuissante à la mort d'un garçon d'une dizaine d'années, fauché par un chauffeur de car il y a environ 3 semaines.
On rencontre de plus en plus des accidents sur la route et on note que au Sénégal, on n'a plus de chauffeurs mais des chauffards. Et moi, personnellement, je dirais que c'est dû à l'indiscipline et au permis que l'on donne à n'importe qui. Il faut réglementer la route et prendre des décisions idoines pour préserver la vie des gens.
Étienne Boireau estime, lui, que les responsabilités sont partagées. Pour ce père de famille qui dit avoir plusieurs fois assisté à des accidents, les usagers sont parfois responsables, même si les conducteurs ne sont pas toujours exempts de reproches.
Les transporteurs et les usagers ne respectent pas la code de la route, donc il y a des conducteurs qui font ce qu'ils veulent dans l'autoroute, ils font n'importe quoi, des fois ils veulent sortir même sans signaler, donc c'est ce qui amène des accidents très 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 risqués et très banals.
De son côté, Abdoulaye Diop va plus loin. Ce conducteur de véhicules particuliers estime qu'au-delà des erreurs humaines, la qualité des infrastructures routières pose souvent problème.
Moi, le premier aspect, c'est juste une indiscipline notoire chez les conducteurs. Et le second aspect, c'est la mauvaise présentation des routes sur lesquelles les véhicules passent. Je trouve inadmissible qu'au Sénégal, aujourd'hui, au 21e siècle, qu'on ne puisse même pas avoir des routes praticables. Dans tous les coins et recoins de ce pays, il y a toujours des nids de poux, des virages qui ne s'expliquent pas, des ronds-points qui sont à l'ère médiévale. En fait, c'est inexplicable. Et pour le cas des conducteurs, c'est comme ça. Je me demande par quelle alchimie même ils ont obtenu le sésame, ce permis. Je ne comprends rien. Parce que tu vois des gens qui ne savent même pas quand est-ce qu'on a priorité ou on ne l'a pas.
Le permis à points annoncé par le président Macky Sall est très fortement attendu pour atténuer les accidents de la route qui coûtent 163 milliards de francs CFA annuels à l'État du Sénégal. Selon le ministère des Infrastructures et des Transports Terrestres, cette enveloppe est majoritairement ventilée entre les services d'urgence et de sécurité sociale, sans oublier les pertes en heures de travail en cas d'incapacité physique ou de décès. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Congo-Brazzaville, le gouvernement a décidé de suspendre pendant 45 jours les célébrations de mariage pour faire face à une nouvelle flambée des cas de COVID-19. Plus de 800 personnes ont été testées positives en 10 jours et les cas de décès ont également augmenté. Des détails avec notre correspondant Arsène Séverin.
Les 10 premiers jours d'octobre ont été intenses dans la lutte contre le coronavirus. Plus de 880 cas positifs enregistrés dans cette période. Des chiffres qui montrent que la situation devient très inquiétante dans le pays. Dans cette foulée, le journaliste Alphonse Ndongo a perdu sa mère, Françoise Ndongo, 82 ans. Voici son témoignage.
La journée d'hier à aujourd'hui, il y a eu 8 morts sous nos yeux. Je peux le dire, et les services d'urgence de ce centre hospitalier sont submergés par des cas, dit-on, de coronavirus. D'ailleurs aussi, on a appris que 8 médecins au service d'urgence en sont également, infectés. Donc ce qui fait que moi je peux dire aujourd'hui que le corona est là, nous le savions déjà.
Mais qu'est-ce qui peut expliquer une telle flambée des cas Covid alors que le Congo-Brazzaville s'est jusque-là bien comporté en matière de lutte contre cette pandémie? Docteur Jean-Claude Emeka, responsable communication de la riposte anti-Covid, explique.
On a observé que pendant certaines veillées, pendant certaines cérémonies de mariage et autres, surtout les VIP, il y avait un relâchement total. Et ça, ça renforce le déni auprès de la population, ce qui nous a entraîné vers l'augmentation des cas.
Les autorités notent que la population ne croit toujours pas à la virulence du virus qui circule au Congo et reste réticente face à la vaccination. Seulement 4% des 5 millions de Congolais ont pu être vaccinés. Dans les rues de Brazzaville, les avis divergent sur la stratégie du gouvernement et la prise en compte des difficultés que traverse la population.
Comment les jeunes ne peuvent pas être réticents quant à se faire vacciner s'il n'y a aucune clarification en interne, si la sensibilisation n'est pas faite de façon conséquente?
Lorsqu'ils sont parfois à l'Assemblée nationale, ils enlèvent leur cache-nez. On se dit qu'il n'y a pas de maladie. Donc la population aussi, avec la misère et la souffrance, ils boycottent ces vaccinations.
Le pays a d'autres urgences en fait en ce moment. Donc à mon avis, il faut tourner la page Covid, il faut passer à autre chose.
65% de la population congolaise sont jeunes. Yohan Ibiliki, président de l'Association congolaise pour l'assistance sociale, appelle les jeunes à se faire vacciner.
Nous invitons la population congolaise à aller massivement se faire vacciner sans crainte.
Le gouvernement a décidé de suspendre les célébrations de mariage pendant 45 jours. Actuellement, plusieurs évacuations sanitaires d'urgence se font vers la France pour des cas Covid. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
L'Afrique du Sud, il y a quelques mois, a été secouée par les pires troubles depuis la fin de l'apartheid. Maintenant, les entreprises saccagées disent n'avoir toujours pas reçu le soutien du gouvernement pour se remettre sur pied. À l'approche des élections locales, la frustration suscitée par la lenteur du nettoyage met à l'épreuve l'avenir du parti au pouvoir, l'ANC, au Congrès national africain. Reportage de Linda Givtash à Johannesburg, récit de Gini Nua Kapumbu-Villa.
Les propriétaires de boutiques dans ce centre commercial de Soweto ont regardé impuissants les pillards détruire leurs moyens de subsistance lors des troubles politiques à l'échelle nationale en juillet dernier. Trois mois plus tard, le bâtiment reste une coquille vide. Le gouvernement sud-africain a promis 93,3 millions de dollars pour la reconstruction. Mais les propriétaires disent n'avoir reçu aucun sou, ni même de simple approbation de construction pour les aider à récupérer. Armando Simbini est ailleurs à Soweto.
Les politiques promettent, mais rien ne se passe. Les promesses qu'ils ont faites, ils répètent qu'ils vont faire, et il n'y a rien pour le moment.
Ce ne sont pas seulement les propriétaires d'entreprises qui subissent les dégâts causés par les émeutes. Sur la place historique Walter Sisulu, où les bases de la constitution de la jeune démocratie ont été posées, les bureaux du gouvernement sont toujours fermés. Les résidents de la région ont donc du mal à accéder à leurs pensions, à leurs prestations sociales et à des services tels que le renouvellement des permis de conduire. Sifiso Kanyele est gestionnaire des installations de Walter Sisulu Square, un site du patrimoine national.
Je pense que cela prend du temps. Les gens souffrent autour de Cape Town et du parc Eldorado. Les gens viennent et accèdent à leurs services ici, ils luttent beaucoup. Donc s'ils peuvent accélérer le processus de réparation, cela peut être beaucoup mieux pour les gens.
Certaines personnes dans la communauté disent qu'elles attendent depuis plus de 3 mois. Elles disent attendre des améliorations sociales et économiques depuis près de 3 décennies sous le régime du Congrès national africain. Griselda Juste Swart, habitante de Soweto.
Ils ne veulent pas du tout voter. Ils pensent que c'est une perte de temps. Je pense qu'ils ont le sentiment d'avoir fait confiance à un gouvernement qui n'a pas répondu à leurs besoins. Ils se sentent oubliés, ils se sentent négligés.
Mais les responsables de l'ANC disent qu'ils n'ont pas abandonné les populations. La présidente du conseil municipal de Johannesburg, Nonseba Malwele, défend le palmarès de l'ANC et appelle à la patience du public.
J'ai visité certaines des entreprises qui ont été endommagées à Soweto en particulier, et la direction de l'ANC était là sur le terrain avec les propriétaires d'entreprises qui ont été pillées. Il existe donc un plan et ils ont déjà commencé à aider ces entreprises.
À la question de savoir si ces assurances ont convaincu les Sud-Africains, on aura la réponse aux prochaines élections le 1er novembre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le souci de combattre la discrimination sous toutes ses formes, de jeunes Danois du groupe Stop the Violence ont créé à Copenhague, depuis 2000, la Bibliothèque humaine. C'est une plateforme de dialogue et d'échange qui permet aux lecteurs de poser des questions au livre humain, qui est en réalité une personne, pour connaître les difficultés ou les stéréotypes auxquels l'autre est confronté. L'objectif est de faciliter la rencontre entre des personnes qui ne se rencontreraient normalement jamais à cause des préjugés ou de la peur qu'engendre la différence de l'autre. Au micro de Nanit Talani est joint en France le journaliste et écrivain Anthony Muyungi, qui a vécu cette riche expérience.
Pour mon cas, à Nantes, il y avait une liste des êtres humains, il fallait choisir. Moi, j'ai choisi l'histoire d'une Colombienne. Après, vous attendez votre tour. Ensuite, vous allez vous discuter avec la personne, vous posez toutes les questions que vous avez. Cette personne vous parle de sa vie, de son parcours. Et ensuite, s'installe un échange, un dialogue. Et puis, ça vous permet de comprendre la personne, d'avoir une idée de son passé, de son vécu.
Qu'est-ce qui vous a poussé à aller à la bibliothèque humaine ?
Pour moi, c'est d'abord la curiosité. Je tirais au sort parmi plusieurs noms. Il y avait des Africains, des Européens, des Australiens. Mais moi, c'est l'Amérique du Sud, c'est la Colombie qui m'a attiré. Et c'était une jeune Colombienne qui vivait à Nantes depuis plusieurs années. Donc, à travers elle, elle m'a parlé de son désir d'abord de quitter son pays, d'aller voir ailleurs. Et puis de cette difficulté de s'installer à Nantes, venant d'un autre continent, d'un autre pays, et puis surtout d'une autre langue. Donc, elle s'est retrouvée à vivre tout cela, quitter la Colombie, le soleil, se retrouver à Nantes avec le climat tempéré et dans une zone où on ne parle que le français. Donc elle a dû faire beaucoup d'efforts, plus que peut-être moi qui suis arrivé en France avec l'avantage déjà de savoir parler français. Donc elle a dû affronter tout ça. Ce que je retiens de son parcours, c'est beaucoup de courage. C'est une jeune femme et ce n'est pas facile de quitter sa famille, son pays et d'arriver en Europe pour étudier et puis s'accrocher pour réussir et puis apprendre une nouvelle langue.
Quel bienfait la bibliothèque humaine vous a-t-elle procuré ?
On se fait parfois des idées sans connaître les gens. On se dit que ceux qui viennent de tel pays sont forcément mauvais. On a tendance à croire que notre pays ou les gens de notre environnement sont les meilleurs sur la terre, sont les plus gentils. Le méchant, c'est forcément l'autre. Mais échanger avec quelqu'un qui vient d'un environnement vous permet d'appréhender ces problèmes. Vous vous rendez compte qu'on traverse tous pratiquement les mêmes problèmes dans des latitudes différentes. Que ce soit au Congo, que ce soit en France, que ce soit en Colombie, on est confronté à ce besoin de réussir dans la vie, à ce besoin de s'affirmer, d'affirmer sa personnalité, d'aller vers l'autre, de vivre sa vie comme on l'entend, en faisant ce qui nous passionne. On apprend à connaître l'autre et quand on apprend à connaître l'autre, certains préjugés, certains clichés tombent d'eux-mêmes et on se rend compte qu'en fait, on avait des œillères, on se rend compte que l'autre est un individu identique. Donc cet échange vous permet de baisser les barrières des préjugés, les barrières de tous les clichés qui sont véhiculés.
Encouragerez-vous d'autres personnes à vivre la même expérience que vous ?
Mais évidemment, de la même manière que j'encourage les gens à beaucoup lire, j'encouragerais bien entendu des gens à aller vers les autres parce qu'on a tendance à se rester, à se replier sur soi-même, sur les gens qu'on connaît. Les Congolais ont tendance à fréquenter que les Congolais, les Camerounais ont tendance à fréquenter que les Camerounais. Or, il faut aller au-delà de cela parce que ça nous permet de connaître l'autre, ça nous permet également de nous enrichir, ça nous permet de nous cultiver et surtout ça permet de mettre fin à ces barrières, mettre fin à ces préjugés qui parfois ne découlent de rien, n'ont rien de concret, c'est juste des clichés qu'on se transmet de génération en génération sans vraiment savoir pourquoi ils existent. Or, à travers ces genres d'échanges, tout cela tombe, ces barrières-là tombent.
Le journaliste et écrivain Anthony Muyungi. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.